Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Philippe Dunoyer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre nouveau mouvement politique baptisé Nous. On a envie de vous dire quel drôle de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous l'avez choisi? Et est-ce que vous avez déjà eu des réactions depuis que vous avez annoncé cet intitulé?
Merci de votre invitation d'abord. Effectivement, oui, c'est pas nécessairement un nom très classique, on peut le dire. Le choix, il s'est fait en fonction de critères simples. Justement, la recherche d'un mot qui regroupe, ou qui rassemble, qui soit simple et qui finalement dit beaucoup de choses. On l'utilise tous les jours et puis on s'attarde pas sur ce mot. Mais le « nous » signifie la volonté, l'envie, besoin de construire ensemble, d'être à notre image aussi, qui est aussi un enjeu politique, identitaire, et puis d'écouter ce que de la population, ce qu'on nous dit tous les jours, mais pas seulement de l'écouter, de l'entendre et d'être en réaction par rapport à ces échanges-là. Donc c'est évidemment un mot tout simple, il ne peut pas tout regrouper, mais je pense qu'il nous, sans jeu de mots pour le coup, il nous ressemble, et je crois que je pourrais vous dire bientôt qu'il nous rassemble.
C'est nous tous, c'est un nous sans exclusion, c'est la... La première personne, enfin c'est le pronom de la première personne du pluriel, hein, c'est bien ça, c'est, oui. C'est très inclusif là pour le
c'est
coup.
C'est très inclusif, c'était aussi un des objectifs, dès lors que bien entendu, ceux qui se retrouvent dans le constat que je peux proposer et les programmes et les propositions et la démarche, dès lors qu'on se retrouve là-dedans, on est le bienvenu dans nous. Mais il faut que ça soit aussi, il faut que ça soit cohérent. Hein. C'est pas quelque chose d'inclusif juste pour dire qu'on est ouvert. Mais effectivement, et je peux déjà vous le dire, il y a déjà des personnes qui sont de sensibilités différentes, qui peut-être sont déçues, ou peut-être quittent certains partis ou sensibilités pour nous rejoindre.
Ils quittent notamment Calédonie Ensemble, que vous-même vous avez quitté après en avoir été membre pendant 22 ans.
Il y en a effectivement, mais pas seulement de Calédonie Ensemble. Et le but n'est pas d'aller gratter, récupérer, mais simplement de savoir si, encore une fois, le constat et l'offre qu'on veut incarner correspond à des attentes des Calédoniens et également à des électeurs qui, sans être encartés, hein, c'est le plus grand nombre, avaient peut-être une hésitation sur leur participation aux élections provinciales. J'en rencontre beaucoup qui me disent qu'ils étaient plutôt prêts à ne pas voter, à s'abstenir pour plein de raisons, hein. Et qui du coup n'auraient pas pu s'exprimer et contribuer à ces élections provinciales parce qu'ils ne se retrouvent pas ou plus dans ce que la politique calédonienne propose.
Alors vous aviez annoncé ce mouvement politique le 23 avril dernier, à l'époque il n'y avait pas de nom. Vous parliez d'un mouvement transversal et ouvert, d'une structure délibérément inclusive, on en parlait. Est-ce que vous avez avancé dans la structuration? Comment ça se présente? Ça existe vraiment?
Oui, ça existe vraiment, les statuts ont été déposés, le bureau est constitué, le compte, puisqu'il faut aussi un compte, est en cours d'ouverture, donc ça c'est des affaires un peu juridiques et techniques, mais la constitution, je dirais au plan organique, personnel, fonctionne très bien. Il y a énormément de contacts, j'ai beaucoup de contacts, de rendez-vous avec des personnes, qu'elles soient connues ou pas d'ailleurs, hein, de gens qui font cette démarche et qui malheureusement, encore une fois, se trouvent tout à fait démunis ou inquiets de la situation économique et sociale. On s'est déplacé hier à Bouraille, on fait des déplacements et on en aura un à la fois bientôt à Boulou-Paris, à Farino. On va se déplacer bien sûr dans l'agglomération également pour consolider et conforter les premiers échanges et puis aller parler de nous aux Calédoniens avant d'engager une campagne un peu plus classique où là il y aura vraiment des réunions estampillées et un programme.
Vous vous concentrez sur la province sud, c'est la seule dans laquelle vous allez vous présenter ou est-ce que vous serez également présent dans les autres provinces?
Pour être tout à fait transparent avec vous, il y a une réflexion sur la province nord également qui se mène. Maintenant, voilà, il ne faut pas faire les choses de manière désordonnée. Le but n'est pas de contribuer à un désordre, mais plutôt de véritablement construire quelque chose. Donc là, en province sud, voilà, ça avance et ça se fera très bien. En province nord, il y a des discussions qui sont en cours.
Alors, quelles sont les personnes qui vous ont rejoint? Vous avez déjà constitué un bureau, vous dites qu'il y a des gens connus, des gens pas connus. Vous pouvez nous donner des noms?
Non, parce qu'ils ne le souhaitent pas, en réalité.
Pourquoi ? Ils ont peur ?
Non, ils n'ont pas peur. Non, en fait, l'idée d'abord, c'est, parce que c'est effectivement bien un objectif que je partage avec d'autres, d'éviter qu'il y ait un éparpillement des voix aux élections provinciales. C'est une élection à un seul tour, à la proportionnelle intégrale, et on sait que quand on ne franchit pas la barre des 5% des inscrits, malheureusement, les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ces listes-là, ces voix sont perdues. Ça n'est jamais une bonne chose pour un électeur de comprendre qu'il a voté pour rien. Donc le but, c'est vraiment de rassembler. Ce rassemblement, ces regroupements, cette réunion à laquelle je consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qui fonctionne, la vocation à être finalisée à un moment. Et c'est à ce moment-là que nous dévoilerons qui participe à cette démarche, qui y contribue et qui consolidera l'offre alternative qu'on proposera aux provinciales.
Parce que vous allez regrouper également d'autres partis, d'autres mouvements politiques, parce que sinon, quand vous dites oui, on crée ça. Un nouveau parti à un mois et demi des élections, on a l'impression que vous allez contribuer à la dispersion, à l'éparpillement.
Oui, j'ai compris que c'était à la fois une inquiétude et un reproche qui pouvait m'être fait, mais non, bien sûr que l'aventure n'est pas personnelle, bien sûr que cet enjeu-là est un enjeu qui est très important pour moi. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'effectivement, nous ne serons pas tout seuls. Nous allons regrouper des démarches qui sont des démarches soit un peu connues pour ceux qui suivent, ou connues, soit pas d'ailleurs, hein, puisqu'on n'est pas obligatoirement un parti pour rentrer dans le mouvement. Mais il y a bien l'enjeu d'éviter la dispersion. Et à ce stade, au moment où je vous parle, on atteint cet objectif d'éviter la dispersion.
Alors c'est quoi le positionnement de nous ? Vous nous aviez dit en présentant le mouvement que c'était ni à droite ni à gauche. C'est au centre, comment est-ce que vous pouvez le définir dans l'échiquier politique calédonien ?
Ben ça constitue une des singularités de cette démarche que je mène et que le mouvement, nous, incarne. Bien sûr, et c'est normal, Madame Noir, que vous me demandiez où on se positionne, dans quelle case ou dans quelle boîte il faut nous ranger. Sauf que chacun fera ce classement à un moment. La démarche, elle est différente de celle traditionnelle où les partis s'inscrivent dans un camp ou un courant. Elle est d'abord, et peut-être principalement, d'indiquer qu'il y a une urgence économique et sociale qui atteint un niveau chaque jour véritablement beaucoup plus fort que la veille. Cette urgence-là n'est pas traitée, elle n'est pas abordée, elle n'est pas combattue comme il le faut, et c'est véritablement une des singularités du mouvement que je porte et que je défends. Bien sûr, les sujets institutionnels, les sujets politiques plus classiques, d'où votre question que je comprends, arrivent. Mais si nous sommes un mouvement ouvert, inclusif et déterminé à agir prioritairement sur les besoins essentiels des personnes et sur la sauvegarde de l'économie du tissu entrepreneurial, logiquement, en cohérence, je ne vais pas commencer par vous dire voilà comment on se positionne sur tel et tel sujet, où est-ce que vous pouvez nous classer. Que vous nous classiez où vous voulez, ben écoutez, ça va être le jeu. Mais ce n'est pas l'urgence. Franchement, la priorité n'est plus là. Vous donner un exemple, Madame Noir, pardon de vous interrompre. On a reçu un courrier cette semaine du président de la CAFED qui nous indique que le régime chômage va être en cessation de paiement au mois d'août. Parce qu'au lieu d'avoir 2200 chômeurs en moyenne, la formule est terrible, il y en a 400 de plus. Donc 450, plus 20% de chômeurs. Il y a des entreprises qui ferment tous les jours et des salariés qui perdent leur emploi tous les jours. On entend, j'ai discuté avec des médecins de l'hôpital qui me disent qu'il y a des personnes qui arbitrent entre acheter un médicament ou s'acheter à manger. Et d'autres exemples en matière économique, la production de ciment en 2026 a atteint le niveau de 1984, 40 ans en arrière. Des indicateurs comme ça, on peut les multiplier, mais ce n'est pas seulement des indicateurs pour montrer une image. C'est une profondeur, une gravité d'une urgence à laquelle véritablement on veut s'attaquer, prioritairement. Et les autres questions, qui sont des questions importantes, ne sont pas dans la priorité, sauf si on vient m'expliquer qu'on va trouver une solution tout de suite à l'avenir institutionnel en août 2026. Mais j'en doute malheureusement. Pendant ce temps-là, en attendant que cette solution arrive un jour, on va en reparler certainement dans quelques secondes, il y a des milliers de familles, tous les jours, qui vont avoir à faire des arbitrages comme celui que je viens de vous dire. C'est des arbitrages qui sont inentendables dans une société comme la nôtre. C'est impossible d'accepter dans une société qui se prétend moderne, démocratique et solidaire qu'il y ait de plus en plus de personnes et de familles qui aient du mal à manger ou à nourrir leurs enfants, qui perdent leur emploi, qui ne savent pas comment payer leur loyer. Donc on ne peut pas dire oui, ben, c'est grave. C'est pas grave, c'est gravissime, c'est urgentissime.
Mais cette solution économique, on va y revenir, cette possibilité de redresser l'économie, elle n'est pas forcément la même si on s'inscrit dans le maintien dans la France ou si on choisit l'indépendance. Les solutions ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes, la manière de concevoir la vie quotidienne même n'est pas forcément la même. Comment est-ce que vous pouvez en faire abstraction ?
Non, je n'en fais pas abstraction. Ce que je dis simplement, c'est que la temporalité, ça a du sens. Madame Noire, je ne vous le souhaite pas et je ne me le souhaite pas, mais il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont faire pour se nourrir tous les jours. Si on me dit, il n'y a pas de souci, on va attendre de savoir si on a une solution institutionnelle ou pas, si le territoire devient indépendant ou pas, et on saura ça en 2028. Super. Et moi, je n'ai pas de problème pour nourrir ma famille tous les jours. Ceux qui ont ce problème-là, mais comment vous voulez qu'on leur dise « Oui, mais forcément, c'est différent. » Bien sûr que c'est différent. Bien sûr que si le pays devenait indépendant, les solutions et la situation économique et sociale ne seraient pas la même que si le pays n'était pas pleinement souverain. Ça, j'arrive à le comprendre, bien sûr. Et évidemment, ça va dépendre. Mais si on avait cette solution devant nous aujourd'hui et ce choix à proposer aux Calédoniens, j'aurais rien à dire. Et il ne va pas arriver tout de suite, ni à la fin de l'année, ni l'année prochaine, pour des raisons électorales oral que vous connaissez aussi. Il est impossible de dire aux Calédoniens sans leur mentir. Bien sûr, ce sujet est important. Bien sûr, il est déterminant pour l'avenir économique et social. Mais il va falloir attendre 2028. Donc, bon courage. Hein. Tenez bon. Et en 2028, vous verrez vers quelle solution on va. Moi, je ne veux pas me résoudre à dire ça aux Calédoniens. C'est pas possible.
Alors, on va revenir sur les solutions que vous préconisez. J'espère que vous en avez. Mais ce discours que vous tenez, on l'entend aussi, et notamment le Rassemblement National et Marine Le Pen l'ont tenu aux Calédoniens quand elle est venue en mai 2025 en disant « Laissez tomber les questions institutionnelles pour l'instant, il faut se concentrer sur l'économie, il faut redresser ». Est-ce que ça induit un rapprochement, une proximité éventuellement, possiblement avec le Rassemblement National ?
Non, je vous l'ai déjà dit, vous me l'avez indiqué.
Uniquement vous faites la même analyse de l'un et l'autre.
Peut-être qu'on n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas que Mme Le Pen au plan national qui fait cette analyse. Peut-être qu'ici, au plan local, il n'y a pas que moi qui fais cette analyse. Et faire une analyse, c'est très très bien, mais quelles conséquences on en tire ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette analyse ? C'est ça que je nous reproche aussi. Parce que défiler les indicateurs rouges, cramoisis que je viens de vous indiquer, et d'autres encore, et puis finalement continuer de considérer que le sujet institutionnel est prioritaire, qu'il soit très important, évidemment, que les sujets en lien avec cet avenir institutionnel qu'on veut tous construire, en tout cas moi, construire avec, dans une démarche consensuelle conforme à celle de 88 et 98, pas de problème. Ça fait 4 ans qu'on essaye de faire ça. Est-ce qu'on va y arriver dans une semaine ? Non. Est-ce que les discussions qui vont reprendre, nous dit le Premier ministre, après les élections provinciales, vont permettre d'aboutir à ça ? Bien sûr que non. Il y a des formations politiques calédoniennes qui ont déjà dit qu'elles ne parleraient pas avec les autres formations politiques calédoniennes tant que l'élection présidentielle n'aurait pas lieu. Ensuite, il y aura une élection législative, vous le savez. Ensuite, le gouvernement s'installera en métropole, on aura de nouveaux interlocuteurs, on sera rendu tranquillement à fin 2027 et on va trouver une solution de quelques semaines, ça n'est pas vrai. Donc, oui, ces sujets-là sont très importants. Moi, j'ai fait campagne pour les référendums pour voter non à la pleine souveraineté. Ce positionnement-là, il n'est pas ancien, il n'est pas inédit, il n'est pas nouveau. Je pourrais, je dirais, me cantonner de le répéter, mais si je faisais ça, je masquerais les conséquences de la liste des indicateurs que je viens de vous indiquer. Moi, j'ai décidé de faire les choses autrement. Ce changement de pied, c'est un risque parce que nous n'avons pas l'habitude en Calédonie. Et c'est pour ça que vous me posez ces questions. Considérer que le sujet institutionnel est secondaire. Il n'est pas secondaire, il ne peut pas être réglé prioritairement. Les autres priorités sont plus importantes.
Je vais vous agacer, mais ce positionnement de non à la pleine souveraineté, c'est une condition pour adhérer à nous, pour faire partie du mouvement, où vraiment vous prenez tous ceux qui veulent venir et qui font une priorité du redressement économique ?
Non, comme je vous le disais tout à l'heure, on va quand même rechercher un petit peu de cohérence. D'accord ? Donc s'il y a des personnes, et il y en a, qui étaient dans des partis ou des formations de sensibilité indépendantiste, qui ne sont pas connues, hein, je ne suis pas en train de vous annoncer des transfuges d'hommes ou de femmes politiques qui sont... mais des gens qui avaient un investissement et je pense un engagement personnel dans des formations indépendantistes, mais auxquelles ils ne croient plus, m'ont-ils dit. Parce que justement, les priorités que je viens de vous indiquer constituent pour eux, pour elles, une urgence. ce moment-là, ces personnes-là, elles sont les bienvenues dans le mouvement parce qu'on partage véritablement le constat et l'orientation. Mais il faut rester cohérent, on ne va pas agréger des gens qui, de toute façon, ne partagent pas, et le moment viendra, sur la solution institutionnelle ou la même démarche, ou le même projet. Donc, on va quand même chercher une cohérence globale. Mais cette cohérence, je nous le rappelle aussi, je vous l'indique, Madame Noir, vous le savez, c'est d'aller rechercher, c'est tout le travail depuis 4 ans qui malheureusement n'aboutit pas, d'aller chercher une solution institutionnelle consensuelle, ce qui implique que tous ceux qui sont autour de la table, à un moment, ont la volonté d'abandonner quelque chose ou de renoncer à quelque chose pour obtenir une solution collective. Cette volonté-là, on n'a pas réussi malheureusement à la concrétiser encore aujourd'hui. Mais quand j'ai discuté, j'ai participé aux discussions sur Ougival, sur Élisée Oudinot, on a pu à un moment penser que tout le monde était d'accord. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord. Mais autour de la table, il y a des gens qui sont de sensibilité indépendantiste, marquée, d'indépendantiste plus modéré, non-indépendantiste, etc. Tout le monde, à un moment, avec sa sensibilité politique différente, venait essayer de trouver une solution collective. Bon, on n'y est pas parvenu. Et c'est cette solution qu'il faut toujours trouver, sauf que elle n'est pas possible avant, je pense, au moins 2028.
En revanche, il est possible de redresser l'économie. Comment ? On essaie quand même depuis un moment. Bon, oui, oui. Situation économique difficile de la Calédonie qui a été terriblement aggravée par les émeutes de 2024. Mmh. Et maintenant, on fait quoi ? Parce que tout le monde essaie de trouver une solution. Il n'y a personne qui soit indifférent à la situation économique de la Calédonie.
Je n'en doute pas. Mais à ce moment-là, ce qu'on peut faire peut-être, c'est se poser différemment des questions quand on a à arbitrer des choix budgétaires. Quand on a à se demander si des questions simples comme le transport, la mobilité des gens peuvent ne pas vous présenter de solution. Il y a des exemples très concrets. J'en ai un qu'on a pu évoquer dans le cadre de la campagne municipale sur le ticket de bus du SMTU qui est encore une fois beaucoup trop élevé par rapport au niveau de vie de ceux qui sont appelés à utiliser les transports en commun. 500 francs, aller, 500 francs, retour, ça a l'air de rien pour ceux qui ne prennent pas le bus, pour ceux qui le prennent, c'est une dépense énorme. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, personne n'ait trouvé la solution et de l'argent pour passer le ticket de bus de 500 à 200 francs ? Vous allez me dire, mais il n'y a pas d'argent. Mais bien sûr que si, il y en a. Il n'y en a pas, il n'y a pas des centaines de milliards, mais il y a de l'argent pour passer ce ticket de bus de 500 francs à 200 francs. Mais ça, c'est sûr, je vous le démontrerai quand on viendra à la partie programmatique plus tard. Il y a des solutions qui sont surtout des solutions urgentes pour éviter que la crise ne se creuse encore. Par contre, le redressement économique, c'est une autre étape. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur un plateau, on est sur un toboggan. Tous les jours, tous les jeudis, au tribunal de commerce, des entreprises demandent à être mises en redressement et malheureusement sont liquidées toutes les semaines. Donc la crise n'est pas en train d'atteindre un plateau, elle se creuse très vite tous les jours. Cette urgence-là, par exemple, m'amènerait volontiers à me demander mais comment ça se fait que si la santé est très importante, c'est la première préoccupation des Calédoniens, comment ça se fait qu'on sache que des gens arbitrent entre manger et se soigner? Comment ça se fait que le budget de l'hôpital reste la variable d'ajustement à chaque fois que l'URUAM rencontre une difficulté de trésorerie, alors que c'est le poteau central du système de santé? Tout le monde le sait. Eh bien, il y a des solutions. Si on priorise, si on sanctuarise, on considère comme dépense obligatoire le budget santé, enseignement par exemple, ou transport, ça voudrait dire que par exemple, on ne mettra pas 700 millions dans le rachat de Centre-Sud, qui est une décision que la province a prise pour verser à Promo-Sud, qui est son entité économique, 700 millions pour acheter son bâtiment qu'elle a déjà. 700 millions, je pense, on peut les utiliser différemment.
Des choix ont été faits également d'aider les entreprises, de soutenir les entreprises, de soutenir les jeunes, de soutenir les médecins, On ne peut pas dire que rien n'a été fait. C'est des choix après. Vous focalisez sur le transport, sur les soins, ce qu'on peut comprendre. Dans le plan de refondation de l'État, il y a également des aides pour venir au secours des comptes sociaux, pour venir au secours des retraites. On ne peut pas dire que rien n'est fait.
Mais ai-je dit ça ?
Non, mais c'est des priorités après. Quand vous dites qu'il faut redresser l'économie,
c'est
des choix
qui
sont faits.
Il y a des choix, ils sont insuffisamment dotés. C'est très simple, et pour ceux qui connaissent la fameuse pyramide de Maslow, ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Quels sont les besoins des gens ? Premier besoin, c'est bizarre, c'est de manger. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que tout le monde mange à sa faim en Nouvelle-Calédonie ? Non. Est-ce que j'ai une solution pour que tout le monde mange à sa faim ? Non. Mais est-ce qu'on peut aider des structures qui sont auprès de ces familles qui, tous les jours, cherchent à nourrir eux-mêmes et leurs enfants ? Probablement. Est-ce que se déplacer est une obligation en termes de services publics que les collectivités dans le monde cherchent à assurer. Oui. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour permettre aux gens d'aller au travail, d'aller à l'école, au collège, ou d'aller à leurs rendez-vous médicaux? Ben, la réponse est non. Aujourd'hui, pas assez. Et je prétends pas, je vous affirme, j'en suis absolument certain, que si certaines priorités budgétaires avaient été différentes, on pourrait commencer à répondre à ces sujets-là. Bien sûr, j'ai pas trouvé 60 milliards sous mon matelas. Mais il y a des dépenses qui ne devraient pas être assurées, parce que, en l'occurrence, quand on affiche des résultats excédentaires à 8,7 milliards en province sud, qui sont ensuite, qui font l'objet de dépenses dans un budget.
Vous n'avez pas voté contre,
non,
d'ailleurs.
Non, j'ai pas voté.
Oui, vous étiez absent, c'est ça.
Oui, désolé. Ça peut m'arriver, mais de toute façon, je n'aurais pas voté ce budget. Pas parce que 8,7 milliards, c'est un chiffre. Mais comment pensez-vous, moi j'ai testé ça, comment pensez-vous que les Canadiens se disent « Ah ben, la province sud dégage 8,7 milliards. » C'est mathématiquement imparable. Comment vous pensez que les gens qui sont dans la difficulté, ou ceux qui craignent de connaître une difficulté particulière, se disent « Non, mais c'est sûr, on fait les bons choix. Il en manque. »
Si la province était en déficit, vous croyez que ça irait mieux ?
Non, mais je ne suis pas en train de dire que du coup, il faut être en déficit, mais de là à, par exemple, ne pas choisir d'emprunter 6 milliards pour un budget d'investissement et d'en emprunter que 3,5 milliards parce qu'on a peur de dégrader son ratio, parce que c'est très important les ratios, les bons ratios, mais je pense que c'est une erreur. On aurait pu emprunter, la province aurait pu emprunter 6 milliards, même en ayant un excédent, parce que ça aurait fait au moins 2,5 milliards d'injecter en plus dans les... Attendez, ce que je dis, je ne suis pas en train de dire j'ai la solution à tout, ce que je dis c'est que ce soit au Congrès, au gouvernement, province sud, ou dans des communes, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant sur des choix prioritaires, budgétaires, de vie quotidienne des personnes et des entreprises. Parce que sinon... On en a déjà quelques prémices, là. Cette situation va se dégrader à la vitesse de la lumière, et à la fin de l'année, on va découvrir qu'on sera dans un nouveau krach social, mais il ne faudra pas dire qu'on aura été surpris.
Soutenir les entreprises.
Après, Mme Noir, pardon de vous interrompre, vous avez parlé de l'État, vous avez raison, l'État annonce beaucoup de choses, l'État propose sur la table beaucoup de moyens.
240 milliards en 5 ans.
Formidable, très bien. Bon, c'est un courrier...
C'est mal fléché.
Ben, pour l'instant, moi, j'ai pas très, très bien vu et compris quelles étaient les conditions qui étaient mises à ce versement, parce qu'il y en a. Quel est le rythme de versement de ces sommes? Parce qu'il y en a, hein. Comment est-ce que l'État considère que 240 milliards sur 5 ans répartis en tranches de 5, peut-être la bonne réponse, alors que si on nous verse les 3 quarts ou les 2 tiers de cette somme colossale en 2028, 29 et 30, à ce rythme-là, on aura disparu, notre tissu économique aura encore subi un choc colossal. Peut-être faudrait-il concentrer en 2026 et en 2027 cet effort que l'État... heureusement, à la gentillesse de consentir à ce territoire français, bien sûr. Et cet échange-là, on ne l'a pas assez avec la délégation interministérielle. C'était vrai avec Mme Durieux, on a eu des échanges. On va en avoir avec M. Duclus. Mais c'est toujours encore trop lent par rapport à l'urgence et aux priorités que je vous décris.
Aider les entreprises, les soutenir pour qu'elles créent de la richesse et de l'emploi.
Oui.
Est-ce que, alors c'est peut-être moins démagogique qu'aider le transport et l'achat de médicaments, mais est-ce que c'est pas ça qui va permettre de sauvegarder ce qui reste encore du tissu économique calédonien ?
Je vous remercie pour votre qualificatif de démagogique, mais c'est pas du tout démagogique de parler du transport, Madame Noir. Hein. Pas du tout. Hein. Vous sous-estimez, je pense, le nombre de personnes...
Parlons des entreprises.
Ouais, non, mais c'est pas démagogique, c'est une réalité. Et il faut pas les traiter comme ça, ces propositions, parce qu'on peut être en désaccord, mais c'est pas pour que les gens, ils votent pour nous.
Non, mais c'est une question.
Non, mais je vous reprends là-dessus, parce que je suis en désaccord avec votre qualificatif. Non, mais les entreprises, collectivement, le tissu entrepreneurial économique calédonien connaît probablement la pire crise de son histoire. Alors après, moi, je suis pas un historien économique, certains me diront non, peut-être, mais enfin, en tout cas, ça fait très très longtemps qu'on ne rencontre pas un chef d'entreprise heureux. Et pas juste malheureux ou inquiet. Quasiment désespéré. Avec personne ne vous dit qu'il a perdu moins de 50% de son chiffre d'affaires. Mais bon, ben, c'est pas grave, t'as qu'à faire avec 50%. Ah ben non, ça devient très dur parce qu'ils ont déjà dû licencier des personnels. Ils indemnisent leurs personnes grâce au régime chômage. Ah ben tiens, d'ailleurs, il va être en rupture en août. Il n'y a pas de perspective de reprise immédiate, mais par contre, ce qu'il faut, alors certaines formations, organisations syndicales d'employeurs, pardon, font des propositions là-dessus, et je pense qu'elles doivent être entendues, il faut les travailler en tout cas.
Globalement, ça vous paraît d'être des bonnes propositions,
oui,
pour les gens de bon sens ?
Oui, oui, absolument. Ce sont d'abord, c'est des propositions qui viennent de ceux qui vivent cette réalité économique tous les jours. Donc moi, je veux bien être plus malin que tout le monde, mais je ne suis pas plus malin que tout le monde. Quand l'ensemble des formations syndicales d'employeurs disent des choses qui sont concordantes, il faut écouter. Quand elles le disent de cette manière-là, à ce moment-là, il faut l'écouter. Elles s'adressent beaucoup à l'État, bien sûr, puisqu'il y a une demande d'injection, notamment de liquidité, je dirais, dans les entreprises pour assurer au moins un peu de respiration. Pas une solution au long cours, hein, un peu de respiration, pour éviter que tous les jeudis, la queue aille de l'intérieur du tribunal à l'extérieur avec des chefs d'entreprise qui n'en peuvent plus. Ils ont raison. Ils sont en train de nous dire, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire également. Hein. Ils ne nous parlent pas, je crois, hein, de l'avenir institutionnel. Hein. Pourtant, ils sont d'accord avec le fait qu'en fonction de la solution, ça changera. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est qu'ils sont en train de mourir. Il y a des entreprises qui meurent tous les jours. Et qu'à un moment, d'ici à la fin de l'année, la situation sera tellement aggravée qu'il n'y aura plus rien à sauver, je suis un peu caricatural, pour être compris. Donc il faut arriver à les entendre, bien sûr, il faut que l'État les entende, mais nous également, ici, on a des mesures à proposer pour simplifier, alléger, permettre des instructions de dossiers beaucoup plus rapides, enfin, on verra les propositions qu'on fera, et puis leur permettre de tenir le coup.
Ils ont aussi dit qu'il fallait un accord, parce que sans confiance, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas de redressement économique.
Je suis d'accord, il faut un accord.
C'est un peu antinomique.
Non, pas du tout, moi je suis d'accord, il faut un accord, hein. Je veux un accord consensuel, sauf qu'on ne l'aura pas avant 2 ans.
Alors le diagnostic, on l'a bien compris, même s'il est effrayant, mais les solutions, ça passe par quoi ? Pour prendre ces mesures dans l'économie, il faut une majorité, au moins.
Oui.
Et puis il faut la confiance, encore une fois, sinon les mesures n'auront pas l'effet escompté.
Alors,
et la majorité, on la trouve comment ? Parce que s'il n'y a pas de réforme, si l'État nous reproche de ne pas...
Ah bah oui,
c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de majorité pendant plusieurs années qu'il était impossible de faire voter un texte au Congrès.
Non, bien sûr, mais si on fait la liste de tous les problèmes, il ne faut rien faire. Ah, c'est sûr que ce n'est pas simple. Hein. C'est sûr qu'il y aura des difficultés, notamment celle de réunir des majorités, mais ça, ce n'est pas nouveau non plus. Depuis quelques années, beaucoup était le cas, puisque personne, tout seul, au Congrès, au gouvernement, on est majoritaire. Donc la recherche de majorité ou d'unanimité, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, sur certaines solutions, elle est possible. Si le constat est partagé, le constat, il n'est pas politique. Quand on dit une entreprise en train de fermer, des salariés perdent leur emploi, ce n'est pas politique, ça. Ce n'est pas indépendantiste ou non-indépendantiste. C'est une réalité. J'ose espérer que, quelles que soient les aspirations des uns et des autres sur l'avenir institutionnel, on peut se retrouver là-dessus. La vraie difficulté, c'est qu'elles sont...
Même s'il faut quand même faire le constat qu'une partie des indépendantistes a contribué à la destruction de l'économie. Ah non, est-ce que vous croyez qu'ils ont envie de la reconstruire ? Non, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont être prêts à s'associer à vous pour la reconstruire ?
Eh bien, écoutez, on va voir, on va pas tarder à le savoir. Si, effectivement, des hommes ou des femmes politiques considèrent que non, il faut permettre à l'économie de continuer de s'enfoncer, on va pas travailler avec eux, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et pas seulement l'économie, d'ailleurs, hein, puisque... Au travers de l'économie, il y a des gens qui travaillent, et puis après qui ne travaillent plus, qui rencontrent des problématiques essentielles comme se nourrir, payer son loyer, etc., ou se déplacer. Donc ce n'est pas seulement l'économie qui est pénalisée, c'est tout le monde. Alors s'il y en a qui considèrent que c'est une bonne chose, ben, on ne travaillera pas avec eux, évidemment. Les propositions, elles ne vont pas miraculeusement tout redresser. Mais par contre, je crois à quelque chose fondamentalement. C'est que ces propositions, si on les met en place, elles traduiront une écoute plus forte, plus réelle, de ce que tout le monde demande, économiquement, socialement. Si ces mesures, bien que peut-être au départ un peu modestes, répondent à des objectifs et à des priorités immédiates, et si on montre, en le faisant, qu'on peut se retrouver sur des sujets essentiels, parce qu'on a tendance à l'oublier quand même, hein, on n'est pas capable de se parler, on n'est pas capable de s'entendre, ben on va voir. Mais je pense qu'on peut retrouver un peu, comment dire ça, une fierté. Je ne ressens plus cette fierté aujourd'hui d'être calédonien, d'être ensemble sur un territoire auquel on est tous très attachés pour des raisons individuelles, bien sûr, personnelles, et de reprendre en main notre destin. Ben, c'est le moment. Reprendre en main le destin, c'est se retrouver, se retrousser les manches, faire des priorités. Il y aura certainement des choix qui seront difficiles. Parler du quotidien des gens, parler des gens, des entreprises. Et puis, bien sûr, le moment venu, mais ça, c'est le travail des politiques, avec l'État, on trouvera cette solution. Et j'espère me tromper à 100%, Madame Noir, mais je suis absolument convaincu que ce ne sera pas avant trop longtemps. Donc, retrouvons cette fierté, reparlons-nous, écoutons-nous, travaillons, retroussons-nous les manches. Je pense que c'est aussi un message très positif qui peut redonner confiance avant la solution dans l'avenir.
En attendant, on va parler un peu de politique que vous jugerez peut-être politicienne, mais quelle est la position de nous, votre mouvement, sur la proposition d'ouvrir le corps électoral provincial aux natifs et aux conjoints? Vous la soutenez? Vous estimez qu'il faut le faire?
Écoutez, moi je suis signataire d'un document qu'il avait prévu. Le sujet des natifs, on va commencer par celui-là. Comment on pourrait être contre l'ouverture du corps électoral à des natifs, rappelons-le, de deux statuts, coutumier ou droit commun, qui sont pour des raisons multiples, aujourd'hui encore exclus de ce droit fondamental. Ça ne devrait pas être un sujet. C'est un sujet, évidemment, mais ça ne peut pas être un sujet. Personne ne peut être opposé à ça. Il n'y a aucune raison rationnelle. L'ouverture aux conjoints est un choix que l'État propose aujourd'hui, puisque, si j'ai bien compris, c'est un amendement que l'État proposera au Sénat dès la semaine prochaine pour permettre à cette question d'être débattue au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est aussi un sujet qui figurait dans la perspective de l'accord sur le sujet du corps électoral avec l'ensemble des formations signataires. Et même d'ailleurs, même si l'UC est sorti, l'UC n'était pas contre cette perspective. La difficulté, c'est toujours la même, c'est que le sujet du corps électoral, qu'on entr'ouvre là, puisqu'il n'est pas complètement traité, il est traité en dehors d'un accord. Très bien. Mais l'État, que dit l'État? L'État nous dit, je vous propose ces deux catégories, pardon, de l'appellation, parce que, selon Monsieur le Premier ministre, il y a un risque juridique qu'en fonction de certains recours, des modifications soient imposées par la justice sur un corps électoral qui est un sujet éminemment politique. Donc pour éviter de se retrouver dans une forme d'obligation, je ne sais pas comment on traiterait cette situation-là, elle nous propose de l'anticiper sur des sujets qui lui semblent les sujets les plus simples. C'est moins vrai sur les conjoints que sur les natifs. Nous le savons, vous le savez, c'est l'objet du débat juridique qui est en cours en ce moment au Sénat et à l'Assemblée. Le sujet des conjoints est un sujet visiblement plus constitutionnel qu'organique. C'est pas que ça soit pas important, mais il faudrait le traiter dans une loi constitutionnelle, et là, il n'y en a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous, on va nous demander un avis, pardon, lundi, seulement sur les natifs, Madame Noir, puisqu'on est saisi sur la proposition qui ne parle que des natifs. Tout le monde parle.
La proposition du sénateur naturel qui ne comprend que les natifs.
Tout le monde parlera, évidemment, aussi du sujet des conjoints. Moi, je suis encore une fois tout à fait favorable à ce que les natifs soient inscrits. Enfin, encore une fois, comment peut-on être contre? Je ne comprends pas. Sur les conjoints, c'est aussi quelque chose qui paraît assez évident, assez logique. Mais je ne doute pas que lundi, on aura des expressions au contraire, qui de toute façon ne nous sont pas demandées, encore une fois, dans le texte, puisque dans le texte, il n'y a pas ce sujet-là. Donc, sur le principe, oui, mais attention, on a toujours, encore, mal abordé ce sujet-là, puisque, malheureusement, puisqu'il n'y a pas d'accord, et que ce sujet est un sujet qui doit être abordé dans la plénitude de sa difficulté, pas seulement les natifs, pas seulement les conjoints, il y a des personnes durablement installées qui attendent aussi qu'on parle d'elles, mais pour ça, il faut un accord, on n'a pas d'accord. Enfin, vous voyez, donc, je le connais, moi, le principe du siphon, je vois bien, on tourne, on vire, et puis à la fin, on essaie de se débattre. C'est des sujets qui sont très importants, qui mériteraient d'être traités dans le cadre d'un accord posé, consensuel, travaillé. On doit le faire dans une forme d'urgence, disons-le quand même, puisque on est bientôt, ce sera lundi le 18 mai, que commencera le vote au Sénat. On est à 7 semaines des élections. On ne peut pas dire qu'on ait fait preuve de beaucoup d'anticipation.
Après ces élections, vous le disiez, l'État envisage des discussions pour la recherche d'un accord institutionnel. Vous dites que l'avenir institutionnel n'est pas l'essentiel. Est-ce que vous souhaitez quand même être associé à ces discussions si vous êtes élu à la tête de nous?
Si on est élu et qu'on a la gentillesse de nous inviter, bien sûr qu'on va venir. Attention, c'est pas que ce soit un sujet accessoire, j'ai jamais dit ça. Je ne dis pas non plus qu'il n'est pas essentiel, il est très important. Je dis juste qu'il ne peut plus être traité de manière prioritaire parce que les formations politiques ne donnent plus le sentiment de vouloir y parvenir de manière globale, générale. J'incrimine une personne. C'est une réalité, il faut parler vrai aux gens. Aujourd'hui, celui qui dit on va trouver en juillet, même si M. le Premier ministre va nous inviter, et puis invitera ceux qui seront élus et discuteront, celui qui dit oui, c'est sûr, en août 2026, on va trouver l'accord qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent, fait preuve d'un optimisme échevelé. La vérité, elle ne va pas être comme ça. Donc, y travailler, bien sûr. Je suis surpris d'ailleurs d'une chose, c'est qu'on l'aborde toujours, toujours, toujours par l'angle de l'équilibre institutionnel ou de l'accord, sans se poser la question de savoir selon quelle méthode on pourrait y parvenir et quelles seraient les conséquences d'un accord. Ben, les conséquences d'un accord, on l'a vu avec Bougival, ça aurait dû être de travailler sur la loi organique, qui est une forme de déclinaison de cet accord. Mais peut-être pourrions-nous travailler sur la loi organique avant de trouver cet accord. Parce que dans les 250 ou 260 articles de la loi organique, tout n'est pas éminemment dépendant de cet accord. Par contre, sur chacun de ces 250 articles, je peux vous garantir que tout le monde a des trucs à dire sur comment améliorer le fonctionnement, comment simplifier le millefeuille administratif, comment régler certaines problématiques juridiques ou budgétaires. Mais plutôt que d'attendre...
Et que là, il y aurait des accords. Il y aurait un accord possible sur certains points de la loi organique.
Pas sur certains points, sur l'écrasante majorité des points. Ça, c'est une vraie conviction que je partage avec vous. Parce qu'elle ne vient pas du ciel. Ça fait un petit moment que j'entends parler et que je participe à ces discussions. Et au lieu de le faire avant, on le fait après. Alors, en l'occurrence, on ne l'a même pas fait. Ici, il y a trois personnes qui sont venues pendant les élections municipales. Formidable période, très bonne période pour qu'on trouve une solution aussi compliquée en l'espace d'une semaine. Là aussi, bon, méthodologiquement, c'est quand même très bizarre. Si en juillet, par exemple, Monsieur le Premier ministre, l'État et nous, ici, on trouve une idée pour se dire, tiens, commençons par dépiauter la loi organique. Je suis sûr que tout le monde est intéressé. Je suis sûr que tout le monde ne sera pas d'accord sur tout. Mais sur les 250 articles, Madame Noire, à chaque fois qu'un sujet va arriver, je veux croire qu'on va être d'accord sur des améliorations à apporter, ou des corrections à apporter. Et puis quand on n'est pas d'accord, ben on va l'indiquer, on va le lister. Mais c'est un travail de Romain. Toute la loi organique, ça passionne que les juristes et les politiques, mais c'est de cette loi organique que dépend le fonctionnement de nos institutions. Et que dépendent d'ailleurs beaucoup de critiques que les Calédoniens nous adressent sur « c'est très compliqué, vous êtes trop nombreux, ça coûte trop cher, on ne comprend pas ce que vous faites, etc. » Mais il faut essayer d'y répondre aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre un accord pour commencer à s'en préoccuper ?
Donc on commence par loi organique, on trouve l'accord après, ça en découle. Ah mais on peut tout essayer. On attend, vous le disiez, c'est dans cette semaine les élections provinciales, à peine, même, enfin 28 juin. Vous en avez tout, la préparation de votre liste, de votre programme.
Ça avance bien.
Je n'en doute pas.
Non, bah écoutez, c'est très sérieusement, sur le programme, on est organisé. On a des réunions de travail sur les différentes thématiques qui feront l'objet des propositions dans le programme, avec à la fois des personnes ressources, que je connais, avec qui je travaille, mais des personnes extérieures aussi qui nous proposent leur contribution. On le dit souvent, et c'est pas une image, c'est bien d'aller demander aussi les avis des gens, hein, les avis de ceux qui sont soit investis dans les secteurs, soit expérimentés dans ces secteurs-là. Donc c'est un travail qui est en cours. On se donne le mois de mai pour finaliser à la fois les contributions et les propositions et formaliser, terminer le programme. Et puis, quant à la consolidation, ça marche bien aussi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes allés à Bouraï avec l'équipe rencontrer certaines personnes. On fera des déplacements, encore une fois, je l'ai dit, à la fois Farino, Paris, évidemment dans l'agglomération. Parce qu'avant de dire qui vient sur la liste, il faut savoir ce qu'on va proposer. Mais dans les deux cas, il faut aussi aller rencontrer des personnes. Donc ce travail, encore une fois, d'agrégation, de regroupement, c'est mon objectif personnel. J'y travaille tous les jours. Et quand on vous dévoilera de quoi et de qui est composé ce programme et cette liste, je pense que vous ne serez pas déçus.
Eh bien, en tout cas, vous le savez que nous l'attendons avec impatience. La prochaine fois que je vous invite, vous me donnerez des noms, je l'espère. La fin de ce magazine Transparence, merci d'avoir accepté
votre invitation. Merci de votre invitation.